إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on va voir dans l'assise d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, le cinquième article présenté par l'éminent Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans cet ouvrage intitulé Fusulun fis-siyam wa at-tarawih wa az-zakah, article sur le jeûne, la prière de tarawih et la zakah. Donc, comme je vous l'ai annoncé hier, le sujet de cet article est la prière de Tarawih. Il dit, rahimahullah, « At-Tarawih est la prière de nuit accomplie en groupe durant le mois de Ramadan. Son temps commence après la prière de l'Isha jusqu'à le lever de l'aube. » Donc on voit à travers la parole du Cheikh, rahimahullah, que la prière de Tarawih n'est pas restreinte à celle qui est accomplie immédiatement après la prière de l'Isha. Mais elle peut avoir lieu durant toute la nuit, à partir de la prière de l'Isha, et ce jusqu'à la prière de l'aube. Donc si la prière est accomplie en groupe, elle est également désignée par la prière de Tarawih durant le mois de Ramadan. Il dit ensuite, rahimahullah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes encouragé à prier la nuit durant le mois de Ramadan lorsqu'il a dit « Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba » غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Quiconque prie la nuit durant Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Allahu Akbar. Celui qui prie durant toutes les nuits du mois de Ramadan et qui prie avec foi, c'est-à-dire en croyant en la légitimité de cette prière qu'il est en train d'accomplir et en espérant la récompense, c'est-à-dire qu'il prie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, recherchant la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, recherchant ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme bienfait et comme récompense. Il ne prie pas pour que les gens disent qu'il prie. Il ne prie pas pour faire comme ses amis. Il ne prie pas pour faire comme tout le monde. Mais il prie seulement pour rechercher la récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-ci, alors ses péchés passés lui seront pardonnés par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit qu'il y a donc dans cette prière une récompense immense, une récompense qui ne doit pas être négligée, une récompense que l'on doit désirer, une récompense que l'on doit se rappeler et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter afin de l'obtenir. Il dit ensuite, rahimahullah, et on trouve dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, d'après Aisha radiyallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé une nuit et a prié dans la mosquée. Et les gens ont prié derrière lui. Lorsqu'ils l'ont vu prier, ils se sont mis derrière lui pour prier avec lui cette prière. Puis il a prié la nuit suivante, c'est-à-dire de la même manière. Et les gens étaient plus nombreux. C'est-à-dire que d'autres gens ont eu connaissance de cette prière. Ils l'ont donc rejoint et ont prié derrière lui la nuit suivante. Puis ils se sont réunis pour la troisième ou la quatrième nuit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Ils l'ont attendu, mais il n'est pas sorti pour prier la troisième ou la quatrième nuit. Lorsque le matin est venu, il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu ce que vous avez fait, c'est-à-dire j'ai vu que vous étiez réunis, que vous attendiez, et rien ne m'a empêché de sortir à vous, si ce n'est la crainte que cette prière devienne obligatoire pour vous. Et ceci a eu lieu durant le mois de Ramadan. Subhanallah. On voit la compassion de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté. Lorsqu'il a vu que les gens se réunissaient et qu'ils étaient de plus en plus nombreux à venir pour prier derrière lui durant les nuits de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti à eux par crainte que cette prière devienne obligatoire. Et on voit à travers ce hadith, qui est comme on l'a dit rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, que cette prière, elle a bien été instaurée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le premier à avoir légiféré cette prière. Puis elle a été revivifiée à l'époque du califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, le cheikh, il dit, rahimahullah, et la sunna est de se limiter à 11 unités de prière, durant lesquelles il fait les salutations toutes les deux unités. Et ce qu'a Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, a été interrogée au sujet de la manière de prier du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant Ramadan. Elle a alors dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'ajoutez pas, que ce soit durant le Ramadan ou un autre mois, plus de 11 unités de prière. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Et on trouve dans le Muwatta, d'après Muhammad ibn Yusuf, d'après Sa'ib ibn Yazid, qui est un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, que Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, a ordonné à Ubay ibn Ka'b et Tamim al-Dari, radiyallahu ta'ala anhuma, de prier pour les gens 11 unités de prière. C'est-à-dire que lorsque Umar, radiyallahu ta'ala anhu, il a revivifié cette sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné deux compagnons, Ubay ibn Ka'b et Tamim al-Dari, radiyallahu ta'ala anhum. Et il leur a dit de prier pour les gens 11 unités de prière pour la prière de nuit. Ensuite, il dit, rahimahullah, et s'il ajoute ou s'il accomplit plus de 11 unités de prière, alors il n'y a pas de gêne. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé au sujet de la prière de nuit et il a dit, « Mathna, mathna », elle s'accomplit deux par deux, c'est-à-dire deux unités, puis deux unités, et ainsi de suite. Et si l'un d'entre vous craint la venue de l'aube, c'est-à-dire que la nuit se termine, alors qu'il accomplisse une seule unité par laquelle il clôture ce qu'il a prié, c'est-à-dire le witr. Et ce hadith, il est rapporté dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc on voit à travers ce hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas spécifié de nombre lorsqu'il a été interrogé sur la prière de nuit. Il a dit, elle se fait deux unités par deux unités, et lorsque vous craignez la venue de l'aube, alors clôturez par une unité, sans donner de nombre déterminé d'unité de prière maximale. Cependant, il dit le cheikh, rahimahullah, cependant, le fait de se limiter au nombre venu dans la sunna avec quiétude et en allongeant, c'est-à-dire en allongeant les unités, d'une manière qui n'est pas difficile pour les gens, alors ceci est préférable et plus complet. C'est-à-dire que le fait que l'imam se contente de faire 11 unités comme il est venu dans la sunna, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, et qu'il prolonge ses unités en priant avec quiétude, en priant lentement, non pas rapidement comme le font certains imams. Certains imams, ils prient tarawih, on dirait qu'il veut sortir au plus vite de la mosquée. Wal'iyadu billah. Il récite à toute vitesse, il s'incline, se relève sans aucune quiétude. Tu n'as même pas le temps de faire des invocations durant la prosternation. Puis il termine. On n'a rien de temps, il a terminé sa prière de tarawih. Wal'iyadu billah. Donc le shaykh, il dit, rahimahullah, le mieux donc c'est de se restreindre et d'être assidu à ce qui est rapporté dans la sunna. De le faire avec quiétude, de prolonger d'une manière qui n'est pas difficile pour les gens. Et ceci est ce qu'il y a de mieux et de plus complet, incha'Allah ta'ala. Il dit ensuite, quant à ce que font certaines personnes, comme empressement exagéré, alors ceci est contraire à ce qui est légiféré. Et si ceci amène à la négligence d'une obligation ou d'un pilier, alors ceci annule la prière. Allahu musta'an. Si l'imam prie d'une manière tellement rapide, de sorte à négliger certains piliers ou certaines obligations de la prière, comme l'assise entre les deux prosternations, ou encore la station debout après l'inclinaison. Alors le shir, il dit, rahimahullah, alors ceci annule la prière. Ensuite, il dit, rahimahullah, et beaucoup d'imams ne font pas preuve de quiétude dans la prière de Tarawih. Et ceci est une erreur de leur part. Car l'imam ne prie pas seulement pour lui, mais il prie pour lui et pour ceux qui sont derrière lui. Il est comme le responsable qui doit faire ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus profitable pour les gens. Ensuite, il dit, rahimahullah, et les gens de science ont mentionné qu'il était détestable pour l'imam de s'empresser de sorte à ce qu'il empêche les fidèles derrière lui de faire ce qu'il y a d'obligatoire. Ensuite, il dit, rahimahullah, et il convient aux gens d'être assidus dans l'accomplissement de cette prière de Tarawih et de ne pas la négliger ou la manquer en se rendant de mosquée en mosquée. Ici, le cheikh, rahimahullah, il fait allusion à certaines personnes qui, durant le mois de Ramadan,
vont de mosquée en mosquée, recherchant à prier derrière un imam avec une belle voix, ou derrière tel ou tel lecteur, ou autre raison. Et ceci les amène parfois, tout d'abord, à louper la prière d'Al-Aïcha. Ils ne prient pas la prière d'Al-Aïcha derrière l'imam, pourquoi? Car il est parti dans une mosquée qui est très loin de chez lui. Il a manqué à son obligation. Et ensuite, il se peut même qu'il loupe certaines unités de prière du Taraweeh à cause de son retard. Et ceci est une erreur. La personne, elle doit veiller à ne pas manquer cette prière. Tout d'abord, à être présente lors de la prière obligatoire. Je parle ici pour les hommes. De ne pas manquer cette prière en commun qui est obligatoire. Puis ensuite, de ne pas négliger cette prière de Taraweeh. Et d'être assidu à celle-ci. Et de ne rien en manquer. Ensuite, il dit, « Et ce, car celui qui prie avec l'imam, jusqu'à ce qu'il termine, il lui est écrit la récompense de la prière de nuit complète, même s'il dort après dans son lit. » Allahu Akbar. Et le shir ici, rahimahullah, il fait référence à un hadith authentique rapporté en ce sens, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que celui qui prie avec l'imam, c'est-à-dire la prière de Taraweeh, la prière de nuit, jusqu'à ce qu'il termine, alors il lui inscrit la récompense de la nuit complète en prière. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Si tu es assidu à cette prière, que tu pries avec l'imam du début jusqu'à la fin, il t'est écrit la récompense de la nuit complète en prière, comme si tu as prié toute la nuit, jusqu'au lever de l'aube. Et le shir, il dit, rahimahullah, même si après tu dors dans ton lit, tu as terminé la prière avec l'imam, tu vas ensuite dormir, et la récompense de la prière, elle t'est inscrite, incha'Allah ta'ala. Et on voit à travers cela l'erreur de certains fidèles qui, lors de la prière de Taraweeh, une fois que l'imam a salué après les deux premières unités, il sort de la mosquée, ne prie pas complètement la prière. Ou d'autres, il s'assoit au fond de la mosquée. Ou pire encore, il s'assoit au milieu des rangs et il coupe les rangs. Et il attend. Il attend un peu que l'imam avance dans la récitation, puis il se lève et s'insère dans la prière. Celui-ci, il n'a pas prié avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine. Il a prié seulement une partie de la prière. Et il se prive lui-même ainsi de cette grande récompense. Si tu es fatigué, mon frère, et que tu n'arrives pas à rester debout pour Allah subhanahu wa ta'ala durant cette prière, prie assis. Fais le takbir, assis-toi dans le rang, fais le takbir, et prie avec les musulmans. Il est permis pour la prière surérogatoire de l'accomplir assis comme cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il priait parfois complètement debout, parfois il priait assis et debout, et parfois il priait complètement assis sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, tu n'auras pas la même récompense que celui qui prie debout. Mais au moins, ne te prive pas de ce bienfait, d'accomplir cette prière complètement avec l'imam, du début jusqu'à la fin. Et ne coupe pas les rangs de prière des musulmans, en restant assis au milieu des rangs, alors que tu ne pries pas. Allahu musta'an. Ceci est un fléau que l'on retrouve chaque année dans nos mosquées. Des gens qui, lorsque l'imam il termine, il salue, il reste assis, il se repose, il boit, il regarde son téléphone, ou autre, il néglige la prière. C'est une courte prière. Durant un mois de l'année, tu ne peux pas patienter une petite heure pour Allah subhanahu wa ta'ala et accomplir cette prière avec quiétude et recueillement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut prêter attention à cela et ne pas se priver soi-même de ces grandes récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offertes en ce mois. Ne te prive pas toi-même. Fais des efforts et sois assidu à cette prière. Enfin, le cheikh, il termine et il dit, rahimahullah, il n'y a pas de mal à ce que les femmes assistent à la prière de Taraweeh, si elles sont à l'abri de la fitna. Donc ceci est la première condition qu'a émise le cheikh rahimahullah ta'ala. Qu'il n'y ait pas de fitna, qu'il n'y ait pas de tentation, ni pour elles, ni pour autre qu'elles. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de tentation pour elles, et qu'elles-mêmes, elles ne soient pas une source de tentation. Il dit ensuite, rahimahullah, à condition qu'elles sortent en faisant preuve de pudeur, sans s'exhiber avec des ornements ni parfumés. Donc ceci est la condition que doivent respecter nos sœurs pour se rendre à la mosquée. C'est-à-dire qu'elles sortent voilées d'un voile légiféré, qu'elles ne sortent pas de parure, qu'elles ne soient pas source de tentation et qu'elles ne soient pas parfumées. Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La femme tout entière est aura. Lorsqu'elle sort, le diable l'embellit. Et certes, la femme n'est pas plus proche d'Allah que lorsqu'elle est dans l'endroit le plus isolé de sa maison. » Et ce hadith est authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Lorsque la femme sort, le diable l'embellit, c'est-à-dire qu'il l'embellit dans les yeux des hommes. Et certains ont dit, c'est-à-dire qui la regarde et fait tout pour l'égarer ou pour égarer autrui par sa cause, par la cause de cette femme. Donc, il est interdit que la femme sorte sans être couverte de son voile légiféré. Et si elle reste chez elle, alors ceci est meilleur pour elle, comme il est venu dans le texte du hadith. Elle n'est pas plus proche d'Allah que lorsqu'elle est dans l'endroit le plus isolé de sa maison. Cependant, ceci ne veut pas dire qu'il faut interdire aux femmes de se rendre dans les mosquées. Comme le dit le cheikh, rahimahullah, il n'y a pas de mal à ce qu'elles assistent à ces prières. Mais elles doivent respecter les conditions nécessaires à cela. D'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'interdisez pas les servantes d'Allah, c'est-à-dire les femmes, de se rendre dans les maisons d'Allah, c'est-à-dire dans les mosquées. » Ensuite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Mais qu'elles s'y rendent non parfumées. » Ce hadith est rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Al-Albani, rahimahum Allah ta'ala. Et l'imam muslim, rahimahullah, il rapporte d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement interdit à la femme de se rendre à la prière parfumée. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si une femme s'est parfumée, alors qu'elle n'assiste pas à la prière de l'Aïcha avec nous. Et l'interdiction, elle n'est pas spécifique à la prière de l'Aïcha, mais elle englobe toutes les prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a seulement précisé celle-ci, car généralement, c'est à cette prière que les femmes assistaient à son époque. Mais quelle que soit la prière, et même quelle que soit la sortie, même si ce n'est pas pour se rendre à la mosquée, mais à plus forte raison pour se rendre à la mosquée, il n'est pas permis à la femme de s'y rendre parfumée. D'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière de la femme qui se parfume et sort pour aller à la mosquée, c'est-à-dire qu'elle est sortie pour prier à la mosquée, ne sera pas acceptée jusqu'à ce qu'elle se lave. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Sa prière n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'elle se lave. C'est-à-dire qu'elle n'obtiendra pas la récompense de ses prières tant qu'elle est parfumée. Elle doit donc faire disparaître l'odeur du parfum. Si le parfum est sur son corps, elle se lave le corps. S'il est sur son vêtement, elle doit changer de vêtement. Et elle n'obtiendra aucune récompense pour ses prières accomplies lorsqu'elle était parfumée. Ceci ne veut pas dire que sa prière n'est pas valide. Sa prière, elle est valide, Inch'Allah. Elle ne doit pas rattraper la prière accomplie ainsi si la prière était une prière obligatoire. Mais elle est privée de la récompense de cette prière. Pourquoi ? Pour avoir mêlé ce péché à son œuvre de bien. Donc les sœurs, elles doivent prendre garde à cela et ne pas négliger cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est permis pour elles de se rendre dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment en ce noble mois, pour profiter de ses prières et prier avec les musulmans. Cependant, elles doivent prendre garde de ne pas mêler cette œuvre pieuse à un péché en sortant parfumées ou en s'embellissant de par leurs vêtements ou autres. Aujourd'hui, il y a certaines femmes, wal'iyadu billah, qui sortent pour la prière de Tarawih comme si elles sortaient à une fête. Wallahu al-musta'an. Tu sors pour te rapprocher de ton Seigneur. Tu sors pour rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi mêles-tu cette œuvre pieuse à ce péché, wallahu al-musta'an? Il faut donc prendre garde à cela, que les femmes prennent garde à cela, et également que les responsables des foyers, parmi les pères, les maris et les frères, prennent leurs responsabilités face à cela et ne négligent pas les femmes qui sont sous leur responsabilité, wallahu al-musta'an. Ceci était donc un bref rappel et une brève parenthèse à ce sujet. Nous avons donc terminé la lecture de cet article au sujet de la prière de Tarawih, et nous lirons dans l'assise de demain, incha'Allah ta'ala, le sixième article qui traite de la zakat et de ses bénéfices. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre, tout comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister durant ce noble mois à prier durant ces nuits de la manière qu'il aime et agrée. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً.